vous dérange?
Au contraire.
Je vous ai apporté une petite bouteille.
Une petite goutte de temps en temps, ça vous remet les nerfs en place, hein?
Radio Campus, 88.3 FM.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours, de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire, celle-là ?
Et bonjour à tous, vous êtes bien sur Écoute ta fac, il est midi, je crois qu'un peu tout le monde est en vacances. Le campus est très vide. Je suis avec Mathéo. Mathéo, comment ça va ?
Bonjour, ma foi, fort bien et toi ?
Bah ça va, écoute, c'est un peu, le temps est un peu triste, la fac est un peu vide, mais c'est pas grave, nous on est là pour la bonne humeur, pour la musique, pour des reportages, pour des chroniques aussi.
Et oui, les chroniques.
Les chroniques quoi aujourd'hui ?
Et bah vu qu'aujourd'hui c'est Halloween, je vais changer, ce sera pas du SCP aujourd'hui, ce sera tes légendes urbaines mexicaines.
Ouais, parce qu'on a fait un peu le tour entre guillemets des SCP.
Effectivement, on a parlé des plus célèbres.
Du coup, nous, on est mardi 31 octobre. Du coup, la fête d'Halloween, la fête des morts.
Ouais.
C'est aussi la fête de tous les Quentins. Bon, on leur souhaite pas la mort, évidemment.
Ça triste.
Et c'est l'anniversaire d'Arnaud Desplechin et Willow Smith. Si jamais ils nous écoutent. Aujourd'hui, nous aurons les reportages faits par la Rédac Pop sur la démolition de la T17 dimanche dernier, donc il y a 2 jours. On aura du coup la dernière chronique horreur de, enfin les dernières chroniques horreur de Mathéo.
Et oui.
Et comme d'habitude, de la musique avec la programmation musicale d'Écoute ta fac, enfin de Radio Campus même du mois, d'Écoute ta fac. Ah, il y a Fatine qui a rejoint le studio. Ah non, t'entends pas.
Ah, c'est compliqué qu'on m'entende pas. Mais vous êtes toujours là, sur le campus Orléans ?
Non. Pourquoi on t'entend pas ?
Toujours sur Radio Campus Orléans.
Hello.
Toujours radio. Elle se casse la gueule.
Oh, la peau quand même.
C'est les vacances. Bah, tout le monde en peut plus quoi. Tu vas bien ?
Il est fatigué.
On m'entend ?
Ouais,
on s'entend.
Oh.
Tu vas bien ?
Yes, et toi ?
Bah oui, du coup, Mathéo m'a déjà posé la question, mais...
Oui, oui.
Du coup, on est parti là avec le reportage de Daniel qui a fait avec les enfants sur la démolition de la T17. Juste après, du coup, Mathéo, on aura tes chroniques.
Ça va faire boum.
Tes chroniques aussi vont faire boum ?
Ah, peut-être pas.
T'es sûr, hein ?
Ah oui.
Qu'est-ce que vous avez prévu pour les vacances, vous ?
De dormir.
De faire mes devoirs.
Ouais, les devoirs, il n'y a pas besoin de devoirs quand même. À quoi ça sert le devoir ?
Bah, toi, t'es triste parce que le campus est vide. Moi, je suis très contente parce que j'ai pas d'études.
Donc tout de suite, c'est l'interview, le reportage de Daniel sur la rédaction.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Jeudi 26 octobre 2023, nous sommes dans le quartier de la Source, nous approchons de la T17. C'est quoi la T17 ?
C'est un immeuble avec 17 étages et qui vont détruire.
C'est un immeuble qui est plus grand que beaucoup d'autres immeubles. C'est le plus grand de la Source et ils vont la détruire parce que ça prend extrêmement de place. Et il y avait comme des sortes de virus dedans, du coup ils devaient le détruire et du coup ils vont mettre un autre truc à la place.
Des sortes de virus ?
Il y a des microbes. C'était, ils voulaient, en fait il y avait de l'amiante,
c'était
mauvais à respirer, du coup ils voulaient désamianter et ils voulaient la détruire.
Tu peux nous décrire ce qu'on voit ?
Ah, une tour à moitié cassée. Hein.
Alors à moitié cassée, qu'est-ce qu'il manque sur cette tour ?
Des fenêtres, beaucoup de fenêtres.
Ils ont enlevé toutes les fenêtres. Et puis on voit donc les panneaux, enfin les banderoles des entreprises qui ont travaillé au désamiantage et puis qui préparent le foudroyage. Ça va être un foudroyage dimanche. Vous en entendez parler dans le quartier de la destruction de la T17?
Oui.
Qu'est-ce qui se dit qu'en disent les habitants?
Ils vont la détruire.
Ils vont mettre un supermarché à la place.
Vous pensez quoi de la destruction de la T17?
Je sais pas.
Je comprends pas pourquoi ils détruisent, même si je connais pas du tout ce que c'est.
Moi, je pense qu'il faut la détruire parce qu'elle prend beaucoup de place pour rien et on pourra placer plein d'autres choses.
Ce matin, on est parti dans le quartier de la Source et on a pris des photos de la tour 17 et on en a profité pour faire un reportage. Et vous allez l'écouter tout de suite.
Alors, bonjour, ça serait pour vous interviewer sur la tour 17. Mmh. Et genre, qu'est-ce que vous en pensez? Genre, ça vous aimez, vous voulez que ça soit...
Oui.
Vous êtes pour?
Oui, j'aimerais que ça soit cassé, oui.
Pourquoi vous voudriez que ce soit...
C'est un immeuble que j'aime pas trop. Je suis entrée à l'intérieur. De façon, qu'il est construit, j'ai pas trop apprécié. Quand je suis dedans, moi, je me sens pas... Je rends visite à quelqu'un là-bas. Donc, j'ai pas trop aimé à l'intérieur. Ça fait peur. C'est un endroit que j'ai pas... J'habite à côté. Hein.
Ah, vous habitez à la dalle?
Vous êtes de la dalle?
Place du
dalle, oui. Ok. Vous avez déjà habité là-bas?
Non. Et j'ai déjà rendu visite à quelqu'un.
Ah, ok.
Vous voulez qu'ils mettent quoi à la place de la tour 17?
C'est pas, peut-être quelque chose pour les jouets pour les enfants. Ouais. Je sais pas. Les jeux d'enfants, les jeux des parcs.
On a un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de sécurité dans le cadre de l'opération de démolition par foudroyage de l'immeuble T17 place Choiseul à Orléans. Un périmètre de sécurité est mis en place dans le cadre de l'opération de démolition par foudroyage de l'immeuble T17 613 place Choiseul 45100 à Orléans. L'accès au périmètre de sécurité est interdit à toute personne non habilitée dimanche 29 octobre 2023 dès 7h. Pierre et lumière, travaux de curage, désamiantage, déconstruction sélective et foudroyage de la tour 17. Montant des travaux, 3 100 000 euros. Achèvement mars 2024. Dans le cadre de la restructuration et requalification globale de la dalle, la source à Orléans. Permis de démolir, PD45234 21B0012, en date du 7 mai 2021. Pour le bénéficiaire HLM Pierre et Lumière, nature des travaux, démolition totale du bâtiment, 273 logements et d'une partie de la dalle, 1 et 3 place Choiseul à Orléans. Surface des bâtiments à démolir, 29 610 m2. Superficie du terrain, 3 622 m2.
Orléans Métropole requalifie la dalle de la source.
Nature des travaux.
Démolition de la dalle aux abords de la T17.
Extension du jardin de la Renaissance, plantation d'arbres et arbustes.
Création d'un city stade de jeux pour enfants et d'agrès.
Réaménagement du parvis du groupe scolaire Gaston Gallou.
Réaménagement de la place des Vernes.
Aménagement des jardins familiaux.
Calendrier des travaux.
À partir d'octobre 2022, démolition de la dalle.
Octobre 2023, démolition de la T17.
2024, aménagement urbain.
Avec la
SEMDO, Action Logement,
ANRU,
Agence Nationale pour les Rénovations Urbaines,
Orléans Métropole.
Projet de rénovation urbaine du quartier de la Source.
La Source, nature et savoir. Secteur dalle, démolition T17, restructuration et requalification de la dalle. Extension jardin de la Renaissance, plan d'action sur les copropriétés, requalification de l'avenue de la Bolière.
Secteur Romain Rolland, création d'un parc urbain îlot 12.
Secteur Pissan, restructuration du centre commercial Bolière 3, réhabilitation thermique et résidentialisation Pissan.
Secteur Mirabeau, réhabilitation thermique et résidentialisation. Mirabeau.
Secteur Carnot-Parmentier, réhabilitation thermique et résidentialisation Bolière.
Aujourd'hui, on va vous parler d'un habitant qui habitait à la tour 17, qui s'appelle Hassan.
Nous allons lui poser des questions sur ce qu'il pense de la tour 17.
De sa destruction. Bonjour Hassan.
Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, et vous?
Ça va, très bien.
Ça fait combien de temps que vous êtes parti de la tour 17?
Ça fait pratiquement 10 ans que je suis parti de la tour 17, depuis 2013.
Vous en pensez quoi? Tu en penses quoi de la destruction?
Pour vous dire sincèrement, cette destruction me touche énormément parce que j'ai vécu une bonne partie de ma jeunesse sur cette tour. Donc, je suis parti des résidences universitaires à partir de la licence. Et tout le restant de mon cursus, je l'ai passé pratiquement à la tour 17. Donc, c'est un lieu qui me marque, où j'ai fait une bonne partie de ma vie ici en France.
Vous avez vécu combien de temps à la tour 17?
J'ai vécu à la tour 17 pendant 10 ans. Pendant 10 ans. J'ai vécu de très bons moments. C'est aujourd'hui la destruction. C'est comme si c'était une partie de ma vie qu'on efface. Donc ça me touche quand même un tout petit peu.
C'est quoi vos souvenirs les plus touchants, profonds, tout?
C'est 10 ans de ma vie. Donc je me suis, j'ai rencontré pas mal de gens, les voisins, les habitants de l'immeuble. Donc on a noué des liens très 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 proches parce que j'avais pas la famille là. Donc les voisins avec lesquels j'habitais à la tour 17, c'était comme une seconde famille. Donc quand j'avais des problèmes, ils peuvent m'assister, ils peuvent m'accompagner et également me conseiller sur certaines choses que peut-être que je pourrais pas faire tout seul.
Tu avais beaucoup d'amis là, en ce moment?
C'est-à-dire à l'époque où j'étais à la tour 17, vous voulez dire? Oui, j'avais pas mal. Donc, moi, ça me faisait déjà 5 ans sur le territoire français, donc la tour 17, quand je suis sorti des résidences universitaires. Donc, c'était une seconde étape pour moi d'avoir une certaine autonomie, d'avoir un appart. Parce que quand on était en résidence universitaire, on était un peu conditionné. Donc, on n'avait pas une certaine liberté. Par exemple, aujourd'hui, à la tour 17, je pouvais accueillir qui je veux dans mon appart. En résidence universitaire, on avait des heures où, au-delà de 22 heures, on ne pouvait pas accueillir du monde chez soi. Donc là, quand j'ai pris un appart à la tour 17, j'avais un peu cette liberté-là.
Vous êtes arrivé à quel âge en France?
Je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans.
Alors, moi aussi, j'ai quelques questions. Tu nous as dit qu'il y avait beaucoup de voisins, c'était 273 logements. Tu habitais au 5e étage. Est-ce que tu peux nous décrire le palier de l'étage, enfin ton étage en fait, le nombre de logements qu'il y avait, voilà.
Sur le palier, il y avait six appartements. Six appartements, donc... Au niveau de... C'est un public un peu mélangé, des jeunes, des gens un peu plus âgés. Mais dans l'ensemble, il y avait quand même un certain brassage culturel. Donc moi, j'avais les voisins, j'avais des Français, d'autres qui étaient d'origine asiatique et africaine. Mmh. Donc on représentait un peu ce melting pot qu'il y avait au niveau de la source.
Deux continents sur un seul étage. Alors, il y avait 273 logements à la T17. Si mes calculs, enfin, je ne suis pas trop mauvais en calcul mental, 17 étages multiplié par 6 appartements par étage, le compte n'y est pas, j'en suis à 102. Il y avait deux entrées, 6 appartements sur 17 étages. Il y avait peut-être deux blocs parce qu'on parle du 1 et 3 place Choiseul.
Oui. Il y avait deux blocs. Il y avait le côté nord et le côté sud.
D'accord. Et toi, tu étais?
Moi, j'étais côté sud.
Côté sud. Et alors, la vue que tu avais, qu'est-ce que tu voyais de ta fenêtre?
C'est vrai que par rapport à l'emplacement de la tour 17, on avait pratiquement une vue sur toute la source entière. Mmh. Donc, c'était un immeuble qui était vraiment placé et on avait une très belle vue sur le quartier de la source.
D'accord. Et tu voyais quoi du quartier de la source? Parce que tu voyais une moitié, puisque c'était la moitié pour le nord, moitié pour le sud. Tu voyais quoi de ta fenêtre, par exemple? Est-ce que tu voyais le lac
Non, de là où était positionnée ma fenêtre. Mmh. Donc, c'était plutôt le côté qui valait vers le marché.
D'accord, le marché de la source, d'accord, oui. De ce côté-là. Et tu étais tout seul dans ton appartement ?
Oui, j'habitais tout seul. Donc, d'accord. J'étais un étudiant, j'étais en licence 3. Donc, j'habitais tout seul. Mmh. J'ai la famille qui est restée au Sénégal. Donc, je m'acclimatais quand même. Ça me faisait déjà 3 ans sur le territoire français. Donc, j'avais quand même acquis une petite expérience. J'avais quand même une certaine autonomie dans ce sens.
Et donc, ça faisait beaucoup de personnes. Hein, parce que donc, 6 appartements multipliés par 17, ça fait au moins 100 de logements. Ça faisait énormément. Tu peux nous parler énormément de passages. Tu peux nous parler justement un peu de cette ambiance entre les étages, par exemple. Est-ce que tu connaissais les voisins des autres étages ?
Oui, je connaissais des voisins qui étaient plutôt sur le côté nord. Donc, comme c'était des étudiants, donc on s'était connus déjà à la fac. Donc, il nous arrivait les week-ends ou parfois pendant les congés scolaires de se retrouver dans un appart, boire du thé, jouer à la boulotte et c'est-à-dire se réconforter parfois à une difficulté particulière, que ce soit à la fin des examens ou parfois quand on n'avait pas les moyens de partir en vacances, d'organiser des sorties à l'île Charlemagne et de partager quelques moments de bonheur.
Safouane ?
Quel est ton meilleur souvenir à la T17 ?
Très bonne question. J'en ai tellement de souvenirs. Donc, moi, je crois que le meilleur souvenir que je vais garder à la T17, c'est ce partage que j'avais avec les voisins de palier. Donc, c'était vraiment des gens très sympathiques. Je garde énormément de bonnes choses et de moments qu'on a passés ensemble, que ce soit parfois une invitation d'un voisin ou parfois une fête qui est organisée dans le palier pour la fête des voisins, partager un petit moment de... un voisin préparait des gâteaux ou un autre achetait de la boisson et on passait quand même les fêtes parfois de Noël ou sur la fête des voisins.
Alors c'est une chance que tu as eue justement d'avoir des voisins sympathiques. C'est important d'avoir des voisins dans la vie, enfin surtout des bons voisins parce qu'on ne choisit pas ses voisins quand on arrive quelque part. Est-ce que la promiscuité entre les étages pouvait créer quelques nuisances, je ne sais pas.
J'ai jamais eu ce problème. Moi, je crois que les appartes quand même étaient assez bien isolés. Donc, durant les 10 ans que j'ai passé là, j'ai jamais eu un voisin. Moi, de ma part, j'ai jamais eu un voisin qui est venu se plaindre. Moi aussi, pareil, vis-à-vis des autres voisins.
Et les voisins du dessus, ils ne faisaient pas de bruit. Toi, tu ne faisais pas de bruit pour ceux du dessous.
Ça va quand même. Il y avait quand même des gens assez responsables. Donc, dans ce sens-là, il n'y avait pas de problème particulier.
Parce que c'est presque un village, quand on y pense, vu le nombre d'habitants. Il y avait plus d'habitants dans la T17 que dans certains villages du Loiret.
Oui, c'est vrai que la tour 17, c'est une tour énorme. Donc, parfois, l'avantage qu'on avait, on avait un gardien sur place. Quand on avait un problème entre voisins ou parfois... il m'est arrivé une fois d'oublier mes clés et j'ai refermé les portes parce que dès qu'on referme la porte, c'est des portes américaines, je ne sais pas comment on le dit. Dès que tu refermes la porte, c'est condamné. Donc il m'est arrivé d'être bloqué dehors. Donc il a fallu que je voie le gardien pour qu'il puisse m'ouvrir la porte. Mais un jour, le gardien n'était pas là, donc j'étais obligé de prendre un serrurier. Ça m'avait coûté un peu cher quand même.
D'accord, donc il avait les clés de tous les appartements de l'immeuble.
Le presque. Gardien, normalement, si on lui laisse une clé, c'est comment ça s'appelle ? C'est le locataire qui décide s'il laisse une clé au gardien. Mais normalement, le gardien n'a pas le droit d'avoir accès aux appartements.
D'accord.
Quelle est ta plus grosse frayeur à la tour 17 ?
J'avais pas de frayeur particulière. Je vais dire, j'habitais au 5e étage, donc il y avait l'ascenseur, donc dans l'ensemble, je n'avais pas de frayeur particulière.
Comment ça se passait pour les fenêtres ? Tu pouvais ouvrir ta fenêtre en grand ?
Oui.
Et tu n'avais pas le vertige, par exemple, en ouvrant la fenêtre ?
Pour peut-être ceux qui habitent aux étages un peu plus élevés, 16e, 15e, mais comme moi j'habitais au 5e, donc je n'avais pas cette peur particulière par rapport à la hauteur. Ouais.
Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller voir des voisins du 15, 16, 17e ? de monter tout en haut ou même juste comme ça pour voir?
Oui, il m'est déjà arrivé de monter jusqu'au 16e. Donc parfois, comme je pratiquais du sport, donc j'avais 2 jours de sport dans la semaine. Malheureusement, les mardis, j'étais pas, par rapport à mes cours, je ne pouvais pas aller au sport. Donc je m'entraînais. Je prenais les escaliers du rez-de-chaussée jusqu'au 16e pour m'entraîner.
C'est bon pour les mollets, j'imagine, ouais. Et les cuisses, d'accord.
Ça me permettait d'avoir un physique vraiment au top.
Est-ce que ça t'a permis, tu nous disais qu'il y avait plusieurs continents qui étaient représentés du fait des origines géographiques différentes des différents locataires. Est-ce que toi, ça t'a donné l'occasion justement de découvrir des cultures autres que la culture sénégalaise ou française?
Oui. Donc, les autres étudiants que je fréquentais également, qui étaient à la Tour des Sept, ils étaient du Béninois. D'autres étaient gabonais. Et j'avais d'autres étudiants aussi qui étaient là, qui étaient français. Donc, il y avait quand même ce branchage culturel qui nous permettait parfois d'échanger et de découvrir d'autres cultures également.
D'accord. Qui étaient sur ton palier, ces étudiants-là?
Oui.
D'accord, c'est super ça quand même, ouais. D'avoir des voisins d'un autre continent, mais à côté de chez soi en fait.
Exactement.
Quand même. Ouais. Est-ce que ça a contribué, toi, à ton ouverture sur le monde ou à ta perception du monde? Quand on est étudiant, on est avide de savoir, de connaissances. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement ces années en tant qu'habitant de la T17?
En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Ça m'a fait grandir également, parce que quand on vient dans un pays étranger comme la France, parfois, on est un peu seul. On a la famille qui est restée au pays. Donc, le fait d'avoir déjà de la compagnie et d'avoir des voisins respectueux et ouverts d'esprit, ça m'a permis aussi de découvrir que l'herbe n'est pas seulement verte chez soi, d'apprendre, de grandir, et de découvrir un mode de vie qui est différent de la nôtre, donc du nôtre plutôt, et de pouvoir également apprendre des autres cultures et d'autres personnes.
Et que le thé est un moyen international de se retrouver les uns les unes les autres et de créer des liens.
Oui.
Vive l'eau chaude, j'ai envie de dire.
Bon, c'est nous déjà au Sénégal, on consomme énormément de thé. Donc le fait aussi de, en dehors même de ce côté thé, il y avait aussi cette communion, ce partage. Parce que parfois, quand on descend de l'école, de l'université, on est un peu seul. Donc les week-ends nous permettaient un peu de se retrouver, de ne pas être, au lieu de rester seul dans son appart. On s'invitait mutuellement, parfois j'invite ou parfois notre voisin invite, on ferait des plats qu'on prépare ensemble, donc c'était vraiment magnifique.
Merci, et on se retrouve bientôt sur Radio Campus pour d'autres émissions. C'était une émission spéciale consacrée à la T17.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La rédac pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La rédac pop de Radio Campus Orléans.
En attendant la fin décembre et la sortie du volume 2 des remixes de Klaus Nomi, le 29 septembre est sorti le volume 1 et du coup tout de suite c'est The Cold Song remixé par Arnaud Rebottini.
Oh,
Moi, je suis totalement fan de ces remodelages et de ces remixes faits sur les sons de Klaus Nomi. Tout de suite, on repart avec Daniela et la Redac Pop pour sa deuxième partie de reportage faite juste après la démolition de la T17.
Puce 88.3, dimanche 29 octobre 2023. Depuis mardi 24 octobre, une trentaine d'artificiers se sont activés dans les différents étages de la T17. Leur planning était chargé car ils ont dû installer en 4 jours 3000 détonateurs et une tonne d'explosifs, dont 450 kg de dynamite. La tour est minée sur plusieurs étages. La dynamite a été installée sur les 3 niveaux inférieurs, sur les gros piliers en béton du 2e et du 1er sous-sol, le rez-de-chaussée et les 4e, 8e, 12e, 15e étages. Pendant 2 mois, des travaux d'affaiblissement ont été réalisés pour enlever 40% de la structure porteuse du bâtiment. Dans les trous des murs ont été placés des tubes en plastique remplis de bâtons de dynamite. Dans les sous-sols, les piliers en béton emplis d'explosifs sont ensuite entourés de grillages et de géotextiles. Les explosifs sont reliés à différents détonateurs électroniques qui sont programmés et séquencés et reliés à une balise de tir. Le but est d'éviter que plus d'une tonne explose tout en même temps. Cela permettra de limiter l'impact acoustique, mais aussi de guider la chute de l'ouvrage. Cela prendra 300 millisecondes par étage. Au total, 1,5 seconde. Les détonateurs électroniques vont s'enclencher pendant 500 millisecondes et il n'y aura plus rien pendant 1 seconde. Et ensuite, la tour va descendre. Pour limiter le nuage de poussière, une trentaine de piscines emplies de 4 mètres cubes d'eau ont été installées tout autour du bâtiment. Il y a 7 kg d'explosifs par piscine. En les faisant exploser, cela va créer un nuage d'eau qui va capter une partie de la poussière et les grosses particules. Donc nous sommes sur le toit de la résidence des Ormes, résidence gérée par le Crous. On peut voir plusieurs habitants du quartier et visiteurs qui sont venus à proximité, à la limite des barrières de la zone de sécurité pour assister à l'événement. Il y a un léger vent, une pluie. Seul un orage pourrait compromettre le foudroyage. Mais malgré cette pluie, on sent que les nuages partent dans le sens opposé, grâce au vent qui les pousse. Il y a donc une équipe Radio Campus Zotelli, composée de Samy, Julien, Morgan, Steven, Sophie, et une équipe Campus, avec moi-même Daniel et Lucas. La foule de spectateurs et spectatrices s'agrandit au fur et à mesure que se rapproche l'échéance de l'explosion. La pluie s'est calmée, la première sirène n'a pas retenti. Et d'ici une minute, nous devrions entendre l'avant-dernière sirène, celle des 5 minutes avant l'explosion. Bon, il n'y a eu aucune sirène. Hein.
Si, il y en a eu une.
Vous avez entendu une sirène?
Oui, il y en a une petite. Ouais. Et apparemment, il y aurait du retard quand même.
Ah.
Merde. Il y a eu énormément de monde qui ont afflué hein, sur les...
Ouais, apparemment, il y a les flics qui tournent un peu partout, ouais. Encore sur la dalle, donc...
Vous avez quelle heure, là?
10h57.
Dans 3 minutes, hein.
Il y a eu du retard, donc à mon avis, 57.
Ouais. Enfin, ça sera pas 11h, quoi.
Déjà, le soleil se lève, c'est bon signe.
Ouais.
Là-bas. 11h03. Décalage à 11h03.
D'accord, ok. Décalage de l'explosion qui n'aura pas lieu à 11h, mais 11h03. Un grand silence règne, tout le monde est dans l'attente.
11h08 apparemment.
11h08, ça a été décalé encore ?
Ouais.
L'explosion est encore décalée. Le nuage de poussière se disperse peu à peu et la T17 n'est plus. Vous étiez sur place, monsieur ?
Oui, j'étais à proximité, près des barrières.
Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous avez vu ?
Je sais pas, un château de cartes, quelque chose qui s'effondre, un nuage de poussière et puis plus rien en fait. C'est assez soudain. Une détonation surtout et une onde de choc. Voilà, on a senti le sous-sol bouger, le sol bouger.
La poussière, beaucoup de poussière.
Oui, de la poussière, mais qui est restée concentrée sur le site de l'explosion, en fait, qui, voilà, comme une espèce de grosse brume qui s'élevait soudainement, voilà.
très impressionnant, la chute de la tour.
C'est la première fois que vous voyez un immeuble s'effondrer?
Ah oui.
Oui.
Ah bah oui, c'est pour ça qu'on était là, d'ailleurs. On l'a connu il y a, dans les années 80, donc on a habité dans le coin. Et en fin de compte, on a voulu voir un peu la fin de cette tour, quoi. Mais c'est vraiment impressionnant. Quand on voit ça, ça fait quelque chose, quoi. Mais effectivement, ça fait un trou, quoi. Il manque quelque chose. Bon, c'est la vie, hein.
Triste, j'ai vu la tour 17 se détruire en 2 secondes, même pas 1 seconde. J'ai vu que cette tour 17 a été démolie. J'étais très triste parce que la tour 17, c'est une tour que j'ai connue. Ça fait très longtemps qu'elle est là, depuis 1960. C'est une tour qui m'a marqué les esprits. Pour moi, c'est le monument de la source, quoi, qui vient d'être détruit aujourd'hui à 11h. 11h10 précisément.
Ouais, c'est ça. 11h08.
11h08.
Mais c'est-à-dire, vous connaissiez les personnes qui avaient habité dedans?
Moi, je connaissais une personne. Ah, oui, je connaissais une personne. Mais ils ont dû
déménager.
Comment ça s'appelle? Ils ont dû déménager, oui. Mm-hmm. Parce qu'ils allaient la détruire. Non, mais...
Parce que le bâtiment était délabré.
Ça me touche personnellement, ça me touche. Ça me touche, ouais. Parce qu'elle a été créée en 1963. Je la tenais à cœur, cette tour. Après, elle est partie. Hein. Un jour ou un autre, tout le monde part. Hein. C'est ça, c'est la vie. Hein.
C'est la vie.
Il faut apprendre.
Et l'explosion, vous pourriez me décrire ce que vous avez vu pendant l'explosion? Comment ça s'est passé?
Ça fait comme dans les films. Ouais, ça a remonté. Films,
voilà. Ça a remonté comme ça.
D'accord, c'est parti du bas.
C'est parti du bas et le bâtiment descend comme ça. C'est impressionnant.
Voilà. Ça allait très très vite en plus.
Très très vite.
Très 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 vite. Ouais. Ça fait bruit. Si, ça fait un très grand bruit.
Mon cœur il a battu.
Ah ouais.
J'ai vu la grande tour du 7 entendre des explosions. Et juste après, elle s'est écroulée en même pas 3 secondes. Voilà.
J'ai vu la tour du 7 s'écrouler.
Depuis qu'on est petit, quand on sort dehors et tout, on la voit dans le quartier et tout. Et ça fait... c'est un manque au quartier. Bah, les habitants qui habitaient autour de la tour du 7, bah, ils ont été réunis ici et ils dormaient ici.
Ah, ils ont carrément dormi ici.
Ils ont dormi ici, c'est ça.
D'accord, ok. Avec quoi? Des lits de camp?
Oui, c'est ça, des lits de camp, c'est ça.
On va aller voir ça. Merci, bonne journée.
Bonne journée, merci.
Alors monsieur, vous êtes un habitant de la source?
Oui, j'habite le quartier et on a dû évacuer ce matin pour les raisons de la démolition de la tour. On a été bien accueillis, vraiment ça s'est très bien passé.
Et alors à 7h vous êtes parti de chez vous, c'est ça?
Oui, vers 7h30 il fallait libérer.
Vous étiez tout seul ou avec de la famille?
Tout seul.
D'accord, et vous êtes venu ici?
Voilà, on est venu directement ici, bien reçu, café, sandwich, tout va bien.
D'accord. Et entre-temps, vous avez fait quoi?
On n'a pas bougé d'ici.
Vous n'êtes pas allé voir la démolition?
Non, là, on l'avait en face de nous.
D'accord.
La démolition, elle a été transmise sur l'écran, là. On l'a vu en direct.
Ok, d'accord.
Voilà.
Et vous attendez quoi maintenant?
Et ils nous ont donné l'autorisation vers 13h, peut-être ils vont nous libérer pour qu'on puisse retourner chez nous.
Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, la disparition de cette tour?
Eh ben, bon débarras. Hein. Franchement, elle cachait le paysage. C'était vraiment une verrue au milieu de la tête. Et là, c'est bon. Mais d'après les aménagements qu'ils vont faire, ça va être super.
Radio Campus Orléans, dimanche 29 octobre, la démolition de la T17 est passée et nous rejoignons donc les habitants-habitantes qui étaient donc dans le gymnase.
Bonjour, c'est Lakta Tifet Emsala, j'étais responsable des médiateurs pour la démolition du T17. Alors c'était surprenant lors de la démolition de la tour pour les... comment dire, tout ce qu'on a fait, comment ça s'est déroulé et tout, c'était bien, c'était organisé. On était très matinal, à 5h du matin, on a commencé l'opération dans l'évacuation des véhicules et des habitants. On a eu quelques refus d'évacuation, mais on a su comment gérer la situation. Et après Le groupe Citémétrie a fait une formation une journée d'avant. Donc c'était bien. Ils nous ont donné l'ordre comment gérer et orienter les médiateurs. Donc c'était bien. C'était une formation par Monsieur Abdelkrim et Monsieur Guillaume. Donc ça s'est bien passé et c'était une expérience, c'était ma première expérience et c'était très très bien.
Vous l'avez fait en tant que volontaire ou salarié ?
Salarié.
D'accord. Et alors pourquoi certaines personnes justement ont été récalcitrantes pour quitter les lieux ?
Par refus, ils ne veulent pas quitter leur demeure, c'est tout.
D'accord. Et vous êtes du quartier, vous ?
Oui, exactement. J'habite juste en face de la tour, donc je suis impactée par la démolition. Voilà.
Donc vous n'êtes pas encore rentré chez vous ?
Non, pas encore.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, la démolition de cette tour ?
C'était impressionnant de voir une tour qui... Bah, il y avait le sol qui tremblait et tout, c'était impressionnant. Voilà.
Vous étiez sur place ?
Oui, j'étais sur place.
D'accord, vous n'avez pas regardé sur l'écran ?
Non, j'étais juste en face. Donc vraiment, on a ressenti le sol en train de trembler. Ouais.
Et combien de médiateurs étaient mobilisés sur cette opération ?
132, d'après les chiffres. Voilà.
Et donc vous étiez responsable des médiateurs et médiatrices ?
Pour mon checkpoint, ouais. Pour la zone que j'étais responsable. Ouais, voilà.
Donc il y avait plusieurs zones. Et,
il y très avait 15 bien. Zones. Une dédiée pour les véhicules, une pour les piétons. Il y avait un bus pour transporter les personnes qui ne peuvent pas venir ici au gymnase. Et on faisait le tri entre les personnes qui veulent venir ici, c'est-à-dire au gymnase. Et il y en a des personnes qui sont indépendants. Voilà.
Oui, alors et comment s'est déroulé l'accueil ici pour les personnes qui venaient au gymnase ?
Je ne suis pas responsable de l'accueil, je viens de venir, donc j'ai aucune idée. Voilà. Mais apparemment, c'était bien.
Et donc, le retour est prévu pour 13h ?
Pour 13h, exactement. Et on va accompagner les personnes chez eux qui sont au besoin.
Donc des personnes, par exemple, à mobilité réduite. Exactement. Ou sous respirateur.
Exactement, qui sont venues en bus ou qui ont réclamé auparavant de venir d'avoir un accompagnement. Voilà. Et les statistiques se sont faites depuis mai. Donc c'est un travail qui a pris beaucoup de temps.
Et qu'est-ce que ça vous fait, donc vous, la démolition de cette T17 ?
En tant qu'habitant ?
En tant qu'habitante, oui.
Après, ça va faire de la poussière chez moi. Donc, non, mais après, il y a des jets d'eau et tout ça, donc ça va. C'est bien. Si c'est pour faire quelque chose de mieux, c'est bien. Donc voilà.
Ça vous a fait une certaine émotion ?
J'avais trop peur, déjà. Car de voir tout un immeuble s'effondrer à côté de toi, c'est pas évident. Tu penses aux gens de la guerre et tout ça, qui subissent ça tous les jours. Donc voilà.
Et donc voilà, c'était le reportage fait post-démolition de la T17, fait par Daniel Begdad, Steven qui était à la caméra pour Zotelli et moi-même pour certaines photos. Tout de suite, on continue en musique et après on aura les chroniques de Matteo. Donc c'est Oscar Lang avec Crawl.
Well,
Et donc, juste après cette pause musicale qui fait du bien, qui fait un peu bouger, hop, on laisse pas tourner le son, on laisse Mathéo. Mathéo, c'est à toi pour ta chronique qui fait peur, même si on vient d'écouter une musique qui était cool. On était dans la bonne humeur, il fait moche, et toi, tu vas nous laisser dans le moche.
Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Vas-y, c'est à toi.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, nous allons parler de légendes urbaines. Et oui, les SCP, on a fait le tour, et ils ont passé à autre chose. Et non, parce que les SCP, c'est bien, mais on a parlé des plus célèbres. Et maintenant, je vous dirige avec moi vers le Mexique, où se trouvent des petites légendes urbaines assez sympathiques. Et nous avons parlé de l'autobus fantôme. De nos jours, une grande route permet d'effectuer rapidement un trajet entre Toluca et Ixtapan. De la salle, mais autrefois, ceux qui souhaitaient faire le voyage devaient emprunter une petite route étroite et sinueuse qui traversait les montagnes. Un soir, il y a longtemps de cela, un autobus quitta Ixtapan de la salle pour effectuer son trajet habituel vers Toluca. Mais alors qu'il ne se trouvait au sommet de la plus haute des montagnes, la pluie commença à tomber, obligeant le conducteur à redoubler de prudence. De nombreux accidents avaient lieu sur ce tronçon, dont beaucoup avaient été mortels. Quand l'autobus commença à accélérer, certains des voyageurs s'en alarmèrent. Ils se levèrent de leur siège, s'approchèrent du chauffeur pour le questionner. Mais avant même qu'il n'ait pu eu le temps de leur adresser la parole, l'homme s'écria « Les freins, ils ne répondent plus !» Un vent de panique souffla alors parmi les passagers, qui se mirent à crier. Puis brusquement, le bus fit une embardée et dérapant sur le bord de la falaise. Il plongea dans le vide et dégringola la pente à une vitesse folle. Il s'immobilisa sur les rochers au fond du ravin et soudain, il prit feu. Quand la police découvrit le bus calciné, des corps jonchaient les rochers. D'autres gisaient carbonisés à l'intérieur de l'épave, mais aucun survivant. Depuis ce jour, on raconte que un autobus fantomatique circulerait parfois sur la route qui va d'Ixtapan à De La Salle à Toluca. Certains racontent que si vous levez votre main à son approche, alors le bus s'arrêtera pour vous faire monter. Vous vous trouverez peut-être dans le véhicule, mais curieusement, vous pourrez constater qu'il est encore en bon état, même qu'il semble plein. Il restera qu'une place, juste pour vous. Si jamais vous décidez de vous asseoir à ce siège, alors vous serez envahi par un étrange sentiment. L'impression que quelque chose ne va pas. Sans vraiment savoir pourquoi, ni l'expliquer. Étrangement, malgré leur tardive, aucun des passagers ne dormira dans cet autobus. Assis bien droit dans leur siège, ils vous regarderont fixement. Et, après un court instant, regarderont fixement devant eux, sans aucun mot. Le silence oppressant vous mettra sûrement mal à l'aise. Quelques minutes plus tard, le chauffeur marchera dans l'allée pour contrôler les billets, mais étrangement, il semblera vous oublier. Peu après minuit, il arrêtera le bus, bien que la gare routière soit devant vous. Et il vous demandera de descendre sans aucune explication. Vous ne saurez pas pourquoi, mais quelque chose vous poussera néanmoins à obéir. Tout le monde restera assis, mais vous, vous vous leverez, traverser l'allée, puis comme vous arriverez devant le conducteur, vous sentirez probablement obligé de payer votre billet. Mais il repoussa votre argent en secouant la tête. Le trajet est gratuit, allez-y maintenant. Mais ne regardez pas en arrière, vous ne pouvez jamais quitter ce bus. Si vous suivez ce conseil et que vous ne vous regardez pas derrière, alors vous entendrez le bruit de la fermeture des portes, celui du moteur qui démarre et qui s'éloigne sur la route. Mais si jamais vous désobéissez et que vous vous retournez, le bus ne sera plus qu'une épave carbonisée, à l'intérieur des squelettes décharnés vous regarderont silencieusement à travers les fenêtres. Et puis, le bus s'éloignera et vous perdrez la vie dans un accident quelques jours plus tard. Alors, votre fantôme rejoindra le bus et vous deviendrez l'un de ses passagers. Et si par hasard, un jour, vous deviez voyager d'Ixtapan de la salle à Toluca, évitez de prendre le bus à la nuit tombée. Vous pourrez peut-être monter dans l'autobus fantôme. Et si jamais vous le faisiez, alors respectez les intuitions du conducteur. Car si vous ne le faites pas, vous serez condamné à un voyage en ce bus pour l'éternité.
Merci. Je crois que tu en as une autre juste après.
Effectivement.
On fait une petite pause musicale avec la banda Ghetto de Gontard. Et après, on te retrouve pour cette autre histoire.
J'ai hâte.
Histoire urbaine.
Toujours légende urbaine du Mexique.
Et ben on revient juste après cette pause musicale. Théo, je te repasse la main si c'est bon pour toi, si tout est prêt pour ton histoire.
Tout est prêt, n'hésite pas à écouter.
Vas-y, c'est à toi.
La seconde légende concernera la pleureuse. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je parle de légendes urbaines qui nous viennent tout droit du Mexique. Alors, écoutez-moi et voyagez avec moi. L'une des plus célèbres légendes mexicaines est celle de la Llorona, qui date apparemment de la conquête espagnole. L'histoire raconte qu'une indienne d'une grande beauté entretenait une liaison avec un gentilhomme espagnol et qu'ils avaient 3 beaux enfants qui étaient adorés par leur mère et dont elle s'occupait avec dévotion. Puis, comme le temps passait et qu'ils devaient toujours se cacher pour se voir, la femme commença à souffrir de cette situation et elle décida à demander à son amant d'officialiser leur relation. Malheureusement, quand elle tenta de lui en parler, le gentleman qui faisait partie de la haute société et qui craignait probablement pour sa réputation, esquiva la question et il agit de la même manière à chaque fois qu'elle s'y essaya. Quelque temps plus tard, poussé par ses intérêts, l'homme épousa une riche espagnole et il abandonna sa maîtresse. Quand elle apprit la nouvelle, la malheureuse devint folle de douleur. Alors brusquement, la vision de leur enfant qui lui sembla insupportable, et comme elle ne pouvait les regarder sans en souffrir, elle les amena au bord de la rivière et elle les noya. Quand elle vit leur pauvre petit corps au fond de l'eau, la mère prit brusquement conscience de l'horreur de son geste et elle mit fin à ses jours. Peu de temps après, des cris déchirants s'élevèrent au bord de la rivière et une silhouette spectrale commença à errer dans les rues de l'ancienne Tenochtitlan, poussant les habitants terrifiés à se barricader dans leurs maisons. Les nuits de pleine lune, les rues se remplissaient parfois d'un épais brouillard et une femme aux longs cheveux noirs apparaissait, vêtue d'une longue robe blanche et portant un voile sur sa tête, qui errait dans la ville. Criant son désespoir, la femme s'arrêtait toujours sur la gare et se dirigea vers la grande place, où elle s'agenouillait, puis, tournant son visage vers l'est, elle se levait et reprenait sa route. Quand elle arriva sur les rives du lac Texcoco, alors elle appelait ses enfants une dernière fois. Puis, s'enfonçant dans les eaux du lac, elle disparaissait. La plupart des gens la fuyaient, mais ceux qui risquaient de l'approcher recevaient de sinistres révélations, et parfois même, ils en mouraient.
Merci Mathéo. Alors, est-ce qu'on a... Fatine, est-ce que t'as peur, toi ?
Non.
Est-ce que t'as hâte de ces histoires de Noël ?
Ah oui, j'adore Noël.
J'en ai montré une juste avant.
Il va nous, raconter des histoires d'amour de Noël, comme sur les téléfilms des chaînes de télé.
Non.
Oh non.
Peut-être.
On sera pas plein d'amour.
Ah si. Mais la première histoire sera pleine d'autres choses.
Pas d'amour, ça c'est sûr.
Mais à Noël c'est toujours la joie, on est toujours content.
Ouais.
Ah oui, il reste souvent une petite bouteille sur la table, non?
Bouteille.
Bouteille
de quoi?
Vous verrez bien.
Suspense. Ah
non, moi j'ai peur. Moi je à Noël je vais être content. Je veux pas.
T'inquiète, c'est pas grave. Les cadeaux miam.
Mais ouais, c'est des gâteaux, pas des gâteaux. Des cadeaux.
Cadeaux, oui, des cadeaux.
T'as
des
faim.
Gâteaux aussi. Ouais. Ça se voit que j'ai faim.
T'as faim, ouais.
Mais pas des cadeaux empoisonnés.
Non.
Ni des gâteaux empoisonnés non plus. Mais
non, je parlais d'une bouteille.
Empoisonnée.
Du coup, on retrouvera ça sûrement dans les prochaines émissions, tes histoires de Noël. Oui. Nous, on se retrouve ni demain ni jeudi parce que la rédaction change un peu ses plans parce qu'on part, une partie de l'équipe part aux locomotives. Du coup, on se retrouvera en direct des locomotives. Nous, Mathéo, Fatine, on se retrouve la semaine prochaine pour Écoute ta fac. Et merci à tous. Bonne fin de vacances parce que du coup, on se retrouve.